Chapitre 15. Amitié et amour. Que ce fût pour une cause ou pour une autre, on ne pouvait guère l'attribuer qu'à sa timidité naturelle. M. O'Donagough n'avait pas voulu aller à la cour. Mais néanmoins, il était fort désireux d'entendre le récit bien complet de tout ce qui était advenu à sa femme et à sa fille pendant leur visite. Il les attendait donc avec les demoiselles Perkins dans une grande anxiété. « Où diable avez-vous été pour être resté tout ce temps ?» demanda M. O'Donagough au moment où le corpulent personnage de sa moitié se présentait dans l'ouverture de la porte de la bibliothèque. Car c'était dans ce sanctuaire que toute la compagnie allait dîner et se reposer, tout le temps que laisserait loisible le cher travail de la toilette jusqu'au moment où arriveraient les invités. « Voyons, qu'êtes-vous devenu ?» reprit M. O'Donagough.
Nous avons été pendant une grande partie du temps en présence de sa très gracieuse majesté, mon cher. Elle nous a reçus de la façon la plus flatteuse et je vous assure que je mourrais d'envie de rester un peu plus longtemps à causer avec elle. Elle a l'air si aimable. Puis nous sommes restés assez longtemps avec toute la haute société, vous savez, à voir et à être vus, Donny. Et je sais d'une jeune personne qu'on a terriblement admirée. Non, je n'ai jamais vu aucune jeune fille avoir l'éclat de Patty. Ça, c'est positif. Dieu sait que je ne voudrais pas la flatter et la rendre vaine. Je hais cela comme le poison. Je n'ai jamais été vaine moi-même et j'espère que ma fille sera comme moi. Mais la vérité est la vérité, et il faut bien le dire, pas un homme ne passait auprès d'elle sans se retourner immédiatement pour la regarder une seconde fois. « Ceci ne me surprend pas beaucoup, ma chère, » reprit M. O'Donagough, en regardant avec complaisance son éblouissante fille. « J'aurais trouvé singulier qu'il en fût autrement. »«
Singulier ?» s'écria Mathilda. « Mais c'eût été absolument contre nature. Vous êtes remarquablement belle aujourd'hui, Patty. Je ne vois pas le bien qui résulterait à le nier, même devant vous. Ainsi, ne vous en fâchez pas, ma chère, car vrai, je ne puis m'empêcher de vous le dire. »
« Et moi, s'il est permis de dire la vérité, » dit Miss Louisa, « je ne craindrai pas de donner mon opinion, quand même on ne me la demande pas. Jamais de ma vie, je n'ai encore vu Mistress O'Donagough aussi belle qu'aujourd'hui. Bonté divine, comme ses plumes lui vont bien !» Et après avoir encore passé ensemble quelques moments aussi délicieux, Patty et Mathilda grimpèrent au premier, laissant Mistress O'Donagough raconter le tour que lui avait joué sa noble amie, vraie cause de leur retard.
Voyons, Patty, contez-moi tout. Vous êtes-vous bien amusée?
C'est ainsi que commença le tête-à-tête entre les deux demoiselles dans la chambre de la belle débutante.
Amusée, c'est à peine si je m'en rends compte. C'était une telle bousculade. Naturellement, ça m'était très agréable de voir comment me regardait. Car une fois en sa vie, Mathilda, maman a dit la vérité. De plus, c'était tous des ducs, des lords ou des baronnettes pour le moins, et ce n'est pas la même chose, vous savez, que d'être regardé par des gens comme cela ou bien par le commun des martyrs.
« Je le crois bien, vraiment, » répondit son ami avec énergie. « Plus d'une femme aura un grand succès à la comédie qui n'attirera pas sur elle le regard d'un lord. Mais je l'ai toujours dit, il y a en vous quelque chose de très remarquable. Voyons, vous ne m'avez pas compté la moitié. » « Avez-vous vu beaucoup de personnes de connaissance ?»«
Oui, nous avons vu les Stephenson, les Hubert, et puis quelqu'un d'autre encore, que j'ai bien embêté. Ah, je consens à être pendu si je ne dis pas la vérité. Le vilain traître qu'il est !»«
Ce n'est pas de Sir Jack que vous voulez parler ?»«
Si, vraiment, et je voudrais pouvoir le tourmenter jusque dans sa tombe et danser dessus avec qui vous savez, Mathilda. » Vous ouvrirez de grands yeux peut-être quand je vous dirai que j'ai pris possession de son bras, que je l'ai forcé à être mon cavalier pendant une heure et demie au moins, et cela devant la chrétienté tout entière. Et je le tenais serré, allez, je suis bien sûre qu'il aurait voulu me voir au fond de la mer Rouge.
Quelle sottise, Patty! Pourquoi vous aurait-il donné son bras s'il avait eu si grande envie de se débarrasser de vous?
Pourquoi? C'est à maman qu'il faut demander cela, Mathilda. Elle a joliment bien manigancé cela. Mais elle ne s'est pas doutée seulement de la moitié du plaisir que j'y prenais. car bien que je sois persuadée qu'elle ne croit pas un mot de tous les mensonges qu'elle débite sur la passion de Sir Henry pour moi, je suis très sûre qu'elle n'a aucune idée de ce qui se passe, et moi, je sais tout, Mathilda. Je sais que ce propre à rien est amoureux de ma belle cousine, avec sa face de petit lait, Mademoiselle Elisabeth Hubert. Aussi, je vous laisse à deviner le bon sang qu'il a fait quand il s'est vu contraint, oui, absolument contraint, de laisser aller Madame et Mademoiselle Hubert pour nous donner le bras à maman et à moi. Oh, ça a été diablement amusant, allez, et ça va recommencer ce soir où nous verrons bien. Mais j'ai une faim de loup et je vais ôter ma belle robe de satin rose pour aller dîner. Je me connais, moi, quand j'ai faim. Je ne suis pas comme vos demoiselles maniérées qui n'osent toucher à rien et une tâche est si vite attrapée. Seulement, vous allez m'aider à l'ôter, Mathilda, car notre femme de chambre est dans les apprêts du souper jusqu'au cou. Dites donc, c'est qu'il sera magnifique le souper. Comme nous nous en donnerons, hein, après que nous aurons tant valsé. Naturellement, tout étant sans dessus-dessous dans la maison en ce jour important, M. Odonago ainsi que les quatre dames dînèrent à 5 heures dans la bibliothèque. Et jusqu'à 8 heures, dans un déshabillé des moins cérémonieux, ils se donnèrent le luxe de manger et de boire, tout en faisant des plans pour assurer la réussite de toutes les gloires, grandes ou petites, qui devaient illustrer la fête. Mais lorsque l'horloge sonna 8 heures, Patty fit un bond et s'écria « Allons, Mathilda, montons. Nous sommes 4 à habiller et nous n'avons qu'une femme de chambre. Nous jetterons un coup d'œil à la salle de bal. Quant au souper, impossible de rien voir sans maman. Depuis 9 heures du matin, elle a fermé la porte à clé. Mais j'y suis entrée tout de même une fois avant que la porte fût fermée et j'ai vu des choses. Pas moins de 4 tipsy cakes, Mathilda. » Et tout en regardant la salle de bal et en admirant toutes les mesures prises pour que la lumière et les décors ne laissassent rien à désirer, Patty, saisissant son amie par la taille, lui fit faire un tour de valse. « Ne mourrez-vous pas d'envie que cela commence ? » dit-elle, s'arrêtant pour reprendre haleine. « Oh, certainement, Patty !» répondit Mathilda d'un ton plaintif. « Malgré tout ce que j'ai souffert, je crois que je pourrais m'amuser si... » « C'est quoi ?» demanda Patty, tournant toujours devant une glace. « Eh bien, si j'étais sûre comme vous d'avoir des danseurs. Les filles de la maison sont toujours sûres d'avoir le dessus du panier. » « En effet, » reprit Patty, en clignant de l'œil d'une façon expressive. « Je ne puis rien dire à cela, ma chère. Je crois être à peu près sûre d'avoir un certain valseur ce soir. » Toutefois, je vous promets une chose, c'est que c'est vous qui serez servie en second de préférence. Chère fille, s'écria Miss Mathilda en s'animant tout à coup, on ne mériterait pas de vous avoir pour amie si l'on ne se trouvait pas heureuse auprès de vous. Je ne crois pas qu'il existe une créature meilleure et plus aimable sur terre. Vous pouvez bien compter sur moi à travers la bonne ou la mauvaise fortune, quoi qu'il arrive. Vous n'avez encore rien dit, n'est-ce pas ? « Non, pas moi. Le meilleur moment sera, bien entendu, quand une centaine d'yeux seront braqués sur eux, car ils ne pourront pas se mettre en colère alors, quand même ils le voudraient. Fiez-vous à moi, Mathilda, je suis la fille qu'il faut pour mener à bien un complot. Mais pas un mot, et vite là-haut. Il n'est que juste temps de commencer à se faire belle. » Bien que les scènes qui suivirent, grâce aux allées et venues qui s'établirent de la chambre de Mistress Odonago à celle de Patty et vice-versa, puissent offrir un certain intérêt et une variété assez amusante, nous ne les raconterons pas. Nous nous contenterons de dire que les demoiselles Perkins tombaient pâmées d'admiration devant chaque nouvel ornement que s'ajustaient Mistress Odonago et sa fille. Marque de bon goût dont elles furent récompensées par le prêt de plusieurs objets qui parachevèrent leur toilette. Tout est relatif en ce monde et il est bien certain que les dames Odonago, revêtues de leurs splendides costumes de cour, n'étaient pas aussi satisfaites d'elles-mêmes en entrant dans la salle de bal que ne l'était Miss Louisa Perkins avec sa robe de soie jaune rehaussée d'une lourde parure de grenat appartenant à Mistress Odonago, et coiffée de fleurs, de boucles, plus une petite plume rouge, le tout venant des trésors de la même libéralité.
La douce Mathilda, maintenant revenue à la vie, portait une robe blanche, ornée, à tous les endroits où la chose était possible, de perles et de nœuds bleus, qui, déjà une fois, avaient servi à embellir la généreuse Patty. Enfin, elles furent toutes prêtes. Elles se demandèrent mutuellement leur avis et se déclarèrent toutes parfaites. « Descendons, » dit Mistress O'Donagough. La salle du bal était illuminée et brillait de toute la gloire due au mélange de bougies et de lampes. « Eh bien, de ma vie, je n'ai rien vu d'aussi beau !» s'écrièrent en même temps les deux demoiselles Perkins. Elles trouvèrent M. O'Donagough et son ami Foxcroft en train de donner eux-mêmes la dernière touche au troisième salon qui, bien que le plus petit de tous, avait aux yeux du maître de la maison, pour le moins, autant d'importance que les autres. Certaines personnes croiront peut-être que ces rencontres avec M. Foxcroft étaient plutôt désagréables aux demoiselles Perkins et que la placide Louisa elle-même devait se sentir assez embarrassée en présence du sudit gentleman. Mais ces personnes-là ne connaissent pas M. Foxcroft. La nature avait doué ce gentleman d'une audace tranquille et forte qui le servait aussi bien que pût le faire la conscience la plus innocente. Et vis-à-vis de ces dames, il soutenait si admirablement bien le personnage d'une simple connaissance, d'un individu rempli de respect à leur égard, qu'elles eussent rougi de témoigner la moindre émotion devant une personne si peu disposée à la partager. Rien ne s'opposait donc à ce qu'elles jouissent de l'éclat incomparable des salons, et ce fut de joie que battirent tous ses cœurs au premier coup de marteau qui vint ébranler la porte d'entrée, coup de marteau qui fut suivi si précipitamment de plusieurs autres que Louisa, qui examinait tout attentivement, ne put bientôt plus distinguer lesquels des invités étaient arrivés les premiers. Il ne se passa pas longtemps avant que la grosse affaire du troisième salon ne fût mise en train, seulement, bien entendu, par quelques petites escarmouches, comme fait un général d'armée avant d'entamer la grande bataille de laquelle il attend un éclatant succès. L'idée qu'avait eue M. O'Donagough de créer un salon à l'instar de ceux qu'il avait vus à Paris, grâce au nom de Stephenson et de Hubert, avait aussi bien réussi que le comportaient les usages du pays. Quelques bons dîners, arrosés de bons vins à discrétion, suivis de la faculté de jouer ou de ne pas jouer, à un taux très élevé ou très modeste à volonté, avaient complété l'attraction. Ce n'était pas sans un but déterminé d'avance que M. O'Donagough avait commencé ce genre de vie. Dès la première heure, il avait eu en vue de découvrir et d'attirer chez lui quelques jeunes novices bien riches et sans défense qui se laissent ruiner de façon à assurer à M. O'Donagough une existence oisive et luxueuse jusqu'à la fin de ses jours. Quand il avait vu que décidément Sir Henry Seymour n'avait en aucune façon la pensée d'épouser sa fille, il s'était dit que peut-être il trouverait dans l'ardeur du jeune homme pour le whist le résultat qu'il cherchait. Mais là encore, il s'était promptement aperçu qu'il se trompait. Seulement, en même temps, il s'était rendu compte de deux choses. D'abord, que le jeune baronnet était pour ses salons un excellent tapas. Couvrant de son honorabilité les parties de whist au taux un peu élevé qu'on y jouait souvent, en second lieu, qu'il pouvait tirer les plus grands avantages de la frayeur qu'avait le jeune homme de voir Sir Edward Stephenson instruit du coup de tête de son voyage en Australie. À l'aide de ces deux découvertes, notre aventurier avait fort habilement manœuvré. Il n'avait jamais assez tracassé le jeune homme de sa gênante amitié pour l'amener à se désespérer, car il craignait surtout qu'il ne se sentît tout à coup tenté d'aller, ce qui eût été la chose la plus sage du monde, tout révéler lui-même à Sir Edward. Mais cette pensée ne lui venait même pas, et comme, avec une grande adresse, M. O'Donagough n'avait plus eu l'air de songer à la possibilité d'un mariage entre lui et Miss Patty, le jeune baronnet se laissait aller sans aucun scrupule à vivre dans une certaine intimité avec une famille qu'il savait être au courant de son secret. Bien que déçu dans son espoir de devenir, grâce à la table de jeu, possesseur des biens de Sir Henry Seymour, il faut bien dire que M. O'Donagough avait assez réussi dans ses affaires pour avoir réalisé plus d'argent qu'il n'en avait dépensé et, poursuivant toujours son but, il avait choisi, pour frapper le grand coup qu'il méditait depuis longtemps, la fameuse journée où, sa femme et sa fille ayant été présentées à la cour,
son hôtel devait être sanctifié par la présence d'une grande partie de la haute société. Parmi tous les jeunes gens avec lesquels il avait fait connaissance dans les divers clubs où il était parvenu à se faire admettre, il y en avait un sur le beau front un peu bas, duquel la nature avait écrit « croquable ». M. O'Donago n'eut pas plutôt envisagé ce personnage qu'il demanda à lui être présenté. Puis son premier soin fut de s'enquérir de ce qu'il était, et ayant appris de la part de gens suffisamment autorisés que le jeune homme, qui possédait un fort beau bien, venait de se débarrasser de ses deux tuteurs, il s'était mis à cultiver sa connaissance avec une assiduité telle qu'il restait bien peu de chance au pauvre jeune gentleman d'échapper à son amitié. Cet individu condamné, son nom était Ronaldson, que ses ancêtres eussent été nobles ou non, n'était plus qu'un simple Écossais, et de plus, un de ces infortunés qui, bien que souvent aimables, sont nés avec l'infirmité de ne savoir jamais dire non. Il n'était pas bien fort, certainement, mais il y a des centaines de jeunes gens, encore moins doués que lui, qui ont fait leur chemin à travers la vie sans commettre de hautes sottises, grâce uniquement à la possibilité qu'ils ont eue de prononcer ce monosyllabe en certaines occasions. Ceci était au-dessus des forces du pauvre Ronaldson. L'invitait-on à dîner, il acceptait. Proposait-on de jouer aux cartes, il jouait aux cartes. Lui demandait-on de parier, il pariait des sommes ou fortes ou petites ou moyennes, suivant le désir de ceux qui l'y conviaient. Les 2 ou 3 milliers de livres sterling que M. O'Donago avait déjà gagnés à ce malheureux jeune homme n'avaient fait qu'aiguiser son appétit, et il y avait une telle insouciance dans la manière avec laquelle la victime rédigeait ses chèques qu'il semblait que l'opération de sa ruine dût convenir tout particulièrement à un bon enfant comme M. O'Donago, car c'était généralement ainsi qu'il était jugé. Il fut donc arrêté entre M. O'Donago et son principal aide de camp Foscroft que le dépouillement complet du jeune Écossais aurait lieu le jour du grand bal de Mistress O'Donago. Sans arriver un des premiers, M. Ronaldson fut loin d'être parmi les derniers. Quand il entra, on dansait un quadrille grave et assez roide, comme une sorte de prologue d'amusement plus vif. O'Donago ne s'était pas encore mis au jeu, quoique depuis 1 h 30 environ, une société dont Foscroft faisait partie se fût emparée des tables. Quand M. Ronaldson arriva, il trouva le maître de l'établissement flânant dans les salons et critiquant les toilettes des femmes avec un air de nonchalance du meilleur ton. « Ah, Ronaldson, comment cela va-t-il? Êtes-vous un danseur ?» Et, avant que le jeune homme eût eu le temps de répondre, il ajoutait « Non, n'est-ce pas? J'en étais sûr. Vous entendez mieux la vie, n'est-ce pas ?»« Eh, mais à dire vrai, je ne danse pas bien souvent. » Ce n'est pas la moitié aussi amusant qu'une partie de cartes. En effet, répondit O'Donago, du ton de la plus parfaite indifférence. Pourtant, il y a ici de jolies filles en trop grand nombre pour que je vous laisse aller jouer maintenant. Il faut d'abord les regarder. Venez avec moi dans ce coin, Ronaldson. Nous y serons admirablement pour voir. Le facile jeune homme suivit son hôte à la place indiquée et se mit à regarder les dames comme on lui avait dit de le faire. Mais quand une fois M. O'Donago l'eut attiré dans ce coin, il ne se donna aucun mal pour le distraire. De temps en temps seulement, il disait « Miséricorde, quelle foule! On va positivement t'étouffer !» accompagnant ses paroles de tels bâillements et du changement si fréquent d'une jambe sur l'autre que l'effet ne fut pas long à se produire sur son compagnon. Celui-ci commença à bâillir aussi en répétant sur un ton des plus ennuyés que la foule était véritablement énorme. « Et pas un siège à espérer !» s'écria O'Donago. « Pour l'amour du ciel, mon bon ami, ne restons pas là plantés comme des blocs de bois dans un chantier. Sur mon âme, je ne saurais le supporter plus longtemps. Allons voir si nous ne serions pas mieux dans une autre pièce. » Dans le second salon, ils s'assirent sur une petite banquette de canne fort étroite qui, par bonheur, se trouvait vide et de laquelle on avait de temps en temps, à travers la foule, un aperçu du bien-être et du confort dont on jouissait dans la salle de jeu, où les fauteuils et les sofas présentaient les formes les plus attrayantes possibles. « Y a-t-il quelque empêchement à ce que nous allions dans la salle de jeu, O'Donago ?
demanda M. Ronaldson, après avoir joui du luxe de la banquette de Cannes pendant environ 10 minutes.
Aucun, si vous le désirez. Le ciel sait que je ne demanderai pas mieux, car c'est le seul endroit où l'on soit un peu bien. Comme c'est le premier bal auquel vous assistez ici, j'ai cru devoir vous en faire les honneurs. Mais je vois que vous êtes comme moi, vous n'avez pas grand goût pour ces folies. »
Et, tout en disant ceci, le prévenant amphitryon conduisait son hôte vers les moelleux sofas, les bons fauteuils et la tranquille partie de whist du troisième salon. Ronaldson se jeta sur une délicieuse bergère au coin de la table du whist et sembla pendant quelque temps prendre un grand plaisir à suivre la marche du jeu. Mais à la fin, on le vit recommencer à bâiller. Alors, M. O'Donago, qui n'avait fait qu'aller et venir pendant ce temps-là, comme si l'idée de jouer était bien la dernière chose qu'il eût en tête, se rapprocha de lui en disant «
Si nous tâchions d'organiser une autre table, qu'en diriez-vous, Ronaldson ? Puisque vous ne dansez pas, vous devez trouver stupide de ne pas jouer. »
« J'aimerais mieux cela que tout, » répliqua Ronaldson. « Mais croyez-vous pouvoir vous absenter de la salle de bal ?»«
Oh, ma foi, j'ai assez fait mon devoir par là. Mais je ne vois pas une âme capable de faire un bon rebers tel que vous et moi l'entendons. Si nous faisions une partie de piquet ?»«
Je le préférerais de beaucoup, » répondit le jeune homme. « Je crois être à ce jeu-là d'une force bien plus égale à la vôtre. »
« Ah ah, vous avez découvert cela, » dit O'Donago en riant. « C'est parfaitement vrai, mais n'importe. Si je perds au piquet avec vous, je me rattraperai au whist avec d'autres. C'est merveilleux de voir comme tout cela se balance à la fin de l'année. »
5 minutes après avoir prononcé ces paroles, M. Allen O'Donago se trouvait assis précisément sur la chaise, devant la table, dans le coin et vis-à-vis du personnage qu'il s'était désigné à l'avance, oui, vis-à-vis celui-là même qu'il convoitait depuis près de 3 mois. Le piquet suivit son cours sans qu'il arrivât rien d'extraordinaire jusqu'au moment où la majorité des invités se dirigea vers le souper. Depuis qu'il jouait, M. Ronaldson avait constamment gagné, à l'exception de 2 parties qu'on lui avait permis de perdre afin d'éviter toute monotonie. Le jeune homme, malgré son heureuse veine, avait très sérieusement faim. Aussi, lorsque le mot « souper » parvint à son oreille, laissa-t-il comprendre à son adversaire qu'il avait le plus vif désir de se joindre à la foule qui descendait vers la salle à manger. Mais M. O'Donago, qui paraissait très irrité par ses pertes constantes, s'écria « Non, sur mon âme, Ronaldson, ceci n'est pas loyal. Vous avez fort joliment gagné toutes les parties et maintenant vous allez emporter le butin sans me laisser la chance de prendre ma revanche. » Cette accusation saisit le jeune homme et le cloua sur place, car malgré les défectuosités de sa nature, il était absolument incapable de vouloir faire du tort à qui que ce fût.
« Sur mon honneur, O'Donago, je n'ai jamais eu cette pensée, » répondit-il gravement. « Je jouerai après souper aussi longtemps que vous voudrez et à ce que vous voudrez. Mais, pour vous parler franc, je meurs de faim. »«
Foscroft, votre table est vide, n'est-ce pas ?» cria O'Donago à son fidèle et attentif ami.
« Oui, ils sont tous descendus au souper, » repartit le parfait ministre.
« Eh bien, allez-y aussi, vous, mon bon ami, et dites à Richardson de nous monter un plateau bien garni avec 1 ou 2 carafons de champagne.
C'est à vous de donner, Ronaldson. Il n'y a rien que j'ai de plus en horreur que de rester dans la salle d'un souper, poussé à droite, bousculé à gauche par 100 de femmes affamées qui ne s'imaginent jamais que d'autres puissent avoir aussi faim qu'elles. Vous serez 50 fois mieux ici, Ronaldson, soyez-en certain. »
« Vous pouvez avoir raison, » répondit son facile compagnon. « Faites-moi donner 1/2 d'un poulet avec 1 verre de champagne et je jouerai toute la nuit si vous voulez. » Pendant ce temps-là, le côté ostensible de la fête, c'est-à-dire le bal, marchait d'une façon tout aussi satisfaisante. La compagnie était nombreuse et brillante et les valses se succédaient à la grande joie de Patty et aussi de temps à autre à celle de Mathilda qui, environ 1 fois sur 4, grâce à un souvenir de son ami dévoué, recevait la bénédiction de voir venir à elle un cavalier. Quelques minutes après minuit, Mistress Hubert, sa fille et toute la société qui avait dîné à Berkeley Square firent leur entrée dans les salons. Le général Hubert n'avait pu les accompagner à cause d'un monsieur qui était venu fort tard lui parler d'une affaire importante et l'avait retenu dans sa bibliothèque. Mais il avait fait dire à sa femme qu'aussitôt libre, il irait la retrouver. L'entrée de Mrs. Hubert avec la société qui l'accompagnait aurait fait sensation n'importe dans quel salon. On peut donc aisément imaginer tout le mal que se donna Mrs. O'Donoghue pour faire circuler le fait de sa parenté avec ses hôtes remarquables. De tous les jours de gloire de sa vie, celui-ci était incontestablement le plus glorieux, et peut-être, au fond de son cœur, avait-elle comme une sorte d'intuition que cette gloire touchait à son apogée, car en regardant tout autour d'elle l'éclat de ses lumières, de toutes ses fleurs, en entendant les gais refrains de l'orchestre de Strauss, en contemplant cette gracieuse compagnie de personnages distingués, tous membres de sa famille, qui se mouvaient dans ses salons, elle poussa un gros soupir, comme se sentant écrasée sous le poids de son bonheur. Il y avait déjà quelque temps que Sir Henry Seymour était arrivé. Il alla immédiatement se joindre à Mrs. Stephenson, à Mrs. Hubert et à leur suite. Mais parmi toutes ces belles personnes, il n'y en eut qu'une qui lui fit bon accueil, et encore celle-là même sentait au-dedans d'elle-même qu'il ne le méritait guère, et bien qu'inspirée par une sorte de douceur attendrie à la vue de la froideur avec laquelle on l'accueillait, elle se sentit portée à le traiter en ami. Elle aurait bien préféré voir tout le monde lui sourire comme d'habitude, afin de n'avoir pas à faire cet effort de politesse que la pitié lui inspirait. Mais cet état de choses dura peu. Il réclama immédiatement l'honneur d'une contredanse, et quoiqu'elle n'acceptât que faute de savoir comment l'éviter, l'opinion qu'elle avait de lui se trouva complètement changée avant que la mesure fût terminée. Quoique Sir Henry Seymour ait donné jusqu'ici à ses amis bien des raisons de douter de sa sagesse, depuis quelque temps il avait pourtant prouvé, à leur insu, il est vrai, qu'il n'en manquait pas, et cela de façon à mériter leur estime. Si jeune que fût Elizabeth, il l'avait aimée presque aussitôt après le renouvellement de leur connaissance à son retour d'Australie, ce qui avait eu lieu à Paris un an environ après que les Hubert avaient quitté Brighton. Mais, à cette époque, cet amour était loin d'être exempt de crainte. Il se rappelait que le tuteur qu'il avait si grièvement offensé était l'oncle par alliance d'Elizabeth, et bien que sa réconciliation avec lui fût complète, il n'en redoutait pas moins la réputation de mauvaise tête que lui valait son adolescence. Il voyait là un obstacle qui pouvait briser le plus cher désir de sa vie. Il s'était donc fort sagement décidé à attendre quelque temps, bien qu'il fût très amoureux, et aussi, malgré tous ses efforts, son secret ne demeura-t-il caché ni pour Elizabeth ni pour ses parents. Toutefois, jusqu'à cette soirée mémorable, il n'en avait jamais articulé un mot. Mais, quoique le délai qu'il s'était fixé ne fût pas expiré, il ne pouvait plus contenir son désir de connaître son sort. Plusieurs circonstances l'avaient amené à cet état d'anxiété. L'admiration évidente qu'avait soulevée l'apparition d'Elizabeth dans la matinée parmi la foule difficile de Saint James lui avait causé une angoisse de terreur. N'allait-elle pas être demandée en mariage par la moitié de la pairie ? Et pour l'achever dans sa misère, il avait fallu subir l'outrage fait à ses sentiments par l'accaparement public de Mrs. O'Donoghue, accaparement dont la conséquence avait été de le séparer de tout ce qu'il aimait pour le forcer à rester avec ceux qu'il détestait le plus. Et pour couronner tout cela, il voyait, sans pouvoir s'illusionner, au regard froid dont ses amis venaient de l'accueillir, combien le rôle involontaire qu'on lui avait fait jouer dans l'aventure de la matinée les avait offensés. La résolution qu'il avait roulée dans sa tête depuis le moment où il avait salué Mrs. O'Donoghue à la portière de sa voiture venait de prendre un corps et était inébranlable. Il avait consenti à attendre avec assez de philosophie lorsqu'il se croyait sur le seuil du bonheur. Mais voir qu'on le chassait sous le prétexte de son attachement à la race des O'Donoghue, ceci était au-dessus de ses forces. Il décida donc qu'il ne quitterait pas la salle de bal avant d'avoir demandé à Elizabeth Hubert de devenir sa femme, et il décida en même temps que dans le cas où la réponse de celle qu'il aimait lui serait favorable, il ne vivrait pas 24 heures de plus sans se délivrer de l'intolérable esclavage où le plaçait son secret vis-à-vis de Mrs. O'Donoghue, en allant confesser sa stupide expédition en Australie à Sir Edward et au général Hubert. Il agissait fort bien en prenant ces deux déterminations. La récompense de la première ne se fit pas attendre, car Élisabeth, dans la sublime simplicité de son jeune cœur candide, le laissa lire tout au fond de son âme. Nous laisserons deviner au lecteur à quel point la fin de cette journée, aussi bien pour notre jeune baronnette que pour sa bien-aimée, ressembla peu à son commencement, et nous dirigerons notre récit vers des scènes d'un tout autre genre qui vont se passer à peu de distance d'eux.